tellement mon repasse. D'une musique mal faite à une musique bien faite, ça je peux le discerner. Mais de la musique bien faite au chef-d'œuvre, ça vous ne pouvez pas.
Prospectif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure 95.9.
You think I'm late? You all think I'm late?
Merci d'écouter RFI les 7h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour à toutes et à tous, RFI Matin commence maintenant, très heureuse de vous retrouver en ce lundi 6 juillet 2026. On parle foot ce matin et le mondial, la nuit dernière, l'élimination du Brésil par la Norvège, une première depuis plus de 35 ans pour la Seleção, une première tout court pour les Norvégiens, c'est aussi ça la Coupe du Monde. Et puis Donald Trump, un peu trop impliqué dans ce mondial, on en parle très largement ce matin. Et d'abord dans votre journal, Julien Coquelrand-M, bonjour.
Bonjour Andréa. À la une, en effet, l'appétit insatiable des Vikings. On part à New York pour vous raconter cette belle soirée des Norvégiens hier soir. Alors qu'un peu plus tard, l'Angleterre s'est imposée sur le Mexique 3-2. Les deux équipes se retrouveront samedi. En Ukraine, au moins 10 morts à Kiev dans une nouvelle vague de bombardements sur la capitale. L'actualité ce matin, c'est aussi les combats qui continuent de faire rage dans la ville d'Anéfis, dans le nord du Mali. En France, Édouard Philippe en meeting hier pour lancer sa campagne de terrain pour la présidentielle. Et puis Ursula von der Leyen, épinglée par des associations, la présidente de la Commission européenne, accusée de recul sur l'environnement et la santé depuis le début de son deuxième mandat.
C'est un coup de tonnerre et une première depuis en plus de 30 ans.
On n'avait pas vu ça depuis 1990. Le Brésil éliminé d'une Coupe du Monde de football avant les quarts de finale. Les larmes de Neymar et de ses coéquipiers hier. Après leur défaite de 2-1 contre la Norvège à New York, c'est la beauté et la cruauté du mondial et de ses surprises. Les Norvégiens enchaînent les exploits. Ils n'étaient jamais allés aussi loin, Thomas de Saint-Léger.
Des larmes de Viking sur le visage du héros Erling Haaland, double buteur de sang-froid, et au tambour pour célébrer avec des supporters émus comme jamais, ou presque.
Je viens de devenir père et la naissance de mon fils reste le plus beau jour de ma vie, mais celui-là vient juste après. Je suis tellement fier de mon pays, de ma patrie, c'est irréel.
Première qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, avec la manière, contrôle du jeu, finesse, combinaison à rendre fou l'adversaire, les Brésiliens étaient blond et joué en rouge pour une fois, le journaliste Alfred Fidjestol.
C'est sans doute le plus grand moment de l'histoire du sport norvégien. On savait qu'il y avait du potentiel, mais on ne voulait pas trop y croire. On en rêvait seulement. J'ai vu qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues d'Oslo. À 2h du matin, les gens sont en train de devenir complètement fous.
La Norvège tube de l'été avec son jeu et son Viking Rose, ce mouvement de rameur exécuté en tribune, repris par les joueurs et le sélectionneur, Stale Solvay.
Toute la nation pousse ensemble et ce mouvement est quelque part le symbole de notre unité. C'est un bel été pour les supporters et pour l'entraîneur que je suis.
Un été sans fin pour l'instant et la promesse d'une autre nuit blanche au moins samedi prochain. Thomas de Saint-Léger, New York RFI.
Une nuit blanche samedi prochain pour un quart de finale face à un nouvel adversaire de taille, la Norvège, rejointe ce matin en quart par l'Angleterre qui s'est imposé 3-2 contre le Mexique. Ce soir, le Portugal et l'Espagne s'affrontent. Tout comme la nuit prochaine, les États-Unis et la Belgique sur fond de polémique alors que la FIFA a décidé hier soir de suspendre le carton rouge du meilleur buteur américain, Folarin Balogun. Donald Trump a personnellement demandé un réexamen de la sanction au président de la FIFA, Gianni Infantino. La fédération belge exprime sa stupéfaction.
À la une également, Kiev frappé de nouveau cette nuit par l'armée russe.
Après les 31 personnes tuées dans l'un des pires bombardements sur la ville dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la capitale ukrainienne qui compte de nouveau ses morts ce matin, ils sont au moins 10 après des tirs de missiles balistiques. Vladimir Poutine l'a répété. Moscou veut poursuivre ses frappes sur les infrastructures qu'elle présente comme stratégiques en Ukraine. Mais du calazo sur le terrain, ce sont encore une fois des immeubles résidentiels qui ont été touchés cette nuit.
Les services d'urgence sont toujours à pied d'œuvre dans plusieurs secteurs de la capitale. Un missile s'est abattu notamment sur un immeuble du quartier de Podil, au cœur de la ville, à Darnitsia, déjà sévèrement touché lors de la précédente attaque. Plusieurs immeubles sont en cours d'évacuation. Les secours fouillent les décombres à la recherche de blessés, d'éventuels survivants. Selon les premières informations disponibles, Moscou aurait tiré une vingtaine de missiles balistiques et hypersoniques dans une nouvelle attaque combinée. Or, l'Ukraine manque cruellement de moyens pour s'en défendre. Kiev réclame en particulier des intercepteurs pour ses systèmes Patriot, l'un des rares dispositifs capables d'abattre les missiles russes. C'était le sens du message adressé hier soir par Volodymyr Zelensky aux Ukrainiens, mais aussi à ses partenaires occidentaux, livrer davantage de munitions de défense antiaérienne, des munitions qui sauvent des vies, rappelle le président. La question doit être au cœur du sommet de l'OTAN prévu cette semaine à Ankara. Les alliés européens et le Canada devraient y formaliser un soutien militaire à l'Ukraine de 140 milliards d'euros sur 2 ans. Mais ce que Volodymyr Zelensky attend surtout, ce sont des engagements rapides et concrets en matière de défense antiaérienne.
Luc Alazo à Zaporijja en Ukraine pour RFI. Merci beaucoup.
RFI 8h05 à Tel Aviv, c'est tout simplement du jamais vu en Israël.
Le gouvernement israélien qui a décidé hier pour la première fois de rejeter une décision de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, qui s'était opposée à l'exécutif en ordonnant à l'organisme public de régulation des médias de poursuivre ses travaux malgré des membres absents. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
C'est cette décision que le gouvernement rejette et au-delà du fond de cette affaire, c'est un signal important, Alice.
C'est un rejet assumé notamment par le ministre des Communications, Shlomo Kari, qui accuse les juges de la Cour suprême d'être, je cite, ivre de pouvoir. Réaction immédiate dans le camp de l'opposition. Yair Lapid estime que le gouvernement est en train de traverser la plus grave crise constitutionnelle de son histoire. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett avertit quant à lui que le non-respect des décisions de justice mène à la désintégration d'un pays. Enfin, le président israélien Isaac Herzog rappelle que la désobéissance à une décision de justice constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Le secrétaire du cabinet israélien a pour sa part tenté un peu plus tard d'éteindre l'incendie, parlant d'une critique sévère de la décision de la Cour plutôt que d'un véritable appel à la désobéissance. Cette crise s'inscrit dans un bras de fer entre le gouvernement et la justice qui dure depuis 2022. Le gouvernement Netanyahou avait alors lancé une réforme pour limiter les pouvoirs de la Cour suprême, provoquant une vague de critiques internationales et des mois de manifestations massives à travers le pays. Projet de réforme mis en suspens après le 7 octobre 2023.
Alice Moreno à Jérusalem, merci beaucoup. L'actualité dans la région ce matin, c'est aussi le début à Téhéran du cortège funèbre d'Ali Khamenei. Au troisième jour des obsèques nationales de l'ancien guide suprême iranien tué au mois de février, au premier jour des frappes israélo-américaines sur l'Iran, son cercueil va traverser les rues de la capitale pendant plus de 10 heures devant plusieurs millions de personnes.
Au Mali, de nouveaux affrontements hier dimanche.
Après les attaques coordonnées menées samedi sur plusieurs localités du pays par les rebelles indépendants du front de libération de l'Azawad et les djihadistes du Jnim. Ils ont continué d'affronter hier l'armée malienne et ses alliés russes. Dans la ville d'Anéfis, dans le nord du pays, la bataille continue pour le contrôle de cette localité stratégique située à une centaine de kilomètres de Kidal, Magali Lagrange.
Les affrontements ont repris hier matin à Anéfis, où les rebelles indépendantistes du FLA et les djihadistes du Jnim sont entrés samedi. Ils s'y trouvaient toujours hier. Les soldats de l'armée malienne et leurs partenaires russes d'Africa Corps étaient toujours, eux, retranchés dans le camp militaire de la localité. Des hélicoptères de l'armée malienne ont essuyé des tirs pour les empêcher d'atterrir. Dans l'après-midi, un convoi terrestre de l'armée malienne qui tentait de se rendre à Anéfis est tombé dans une embuscade revendiquée par le FLA à environ 140 km de Gao, véhicule incendié. Le front de libération de l'Azawad affirme avoir détruit un hélicoptère. Le convoi a été obligé de faire demi-tour. À Gao, principale ville du nord du Mali, des détonations ont été entendues dimanche matin. Selon des témoins, la tension était palpable autour de la ville au lendemain des attaques coordonnées lancées samedi par le FLA et les djihadistes du Jnim dans plusieurs localités du nord et du centre du Mali, ainsi que sur la prison de Kenyoroba, à quelques dizaines de kilomètres de Bamako.
Magali Lagrange.
En France, un week-end aux accents politiques.
À moins d'un an de la présidentielle, les prétendants à l'Élysée qui continuent de tenter de marquer les esprits avant la pause estivale, c'est particulièrement vrai au centre, où la bataille continue de faire rage entre deux anciens premiers ministres pour savoir qui des deux défendra les couleurs du camp macroniste l'an prochain, Édouard Philippe contre Gabriel Attal. Et Édouard Philippe qui tenait hier son premier grand meeting de campagne à l'Adidas Arena de Paris devant 5000 personnes pour promettre notamment de remettre de l'ordre dans les affaires de la France, de mener une refonte massive de l'école. Un meeting percuté forcément par l'actualité qui va dominer le paysage cette semaine, le jugement demain au procès en appel de Marine Le Pen qui pourrait se voir empêchée de se présenter l'an prochain et de voir adouber Jordan Bardella pour la remplacer. La question hier était dans toutes les têtes du côté des philippistes, Valérie Gasse.
Qui est le plus facile à battre? Il y en a pour qui la réponse est argumentée. Alan, jeune soutien d'Edouard Philippe, fait partie de ceux-là.
Je pense que Marine Le Pen, historiquement, elle a montré des limites dans les deux débats, les deux précédents débats. Le nom Le Pen est dû rapporter aussi. Je pense aussi que Bardella, économiquement, est un peu moins identifié, populiste, socialiste. Je pense que Marine Le Pen, c'est mieux.
Pour d'autres, les chances de Marine Le Pen d'échapper à une condamnation sont très limitées. Attis n'imagine qu'un scénario.
De toute façon, ça va jouer entre lui et Bardella, on l'a tous dit. Hein.
Et dans ce cas-là, Claude est affirmatif.
Ah, je pense que ce sera plus facile face à Jordan Bardella. Jordan Bardella est incompétent et je pense que ça se montrera dans toute la campagne, notamment dans un débat s'il y en a un.
Dans l'entourage d'Edouard Philippe, on explique que ça ne change rien. Le candidat, lui, a choisi dans son meeting de les ridiculiser l'un et l'autre.
Le Rassemblement National de M. Bardella est, paraît-il, converti au libéralisme, à l'Europe, au capitalisme et peut-être même, on ne sait pas encore très bien, à la réforme des retraites. Le Rassemblement National de Mme Le Pen, c'est l'inverse. Le Rassemblement National, c'est un en même temps qui ne s'assume pas. Social dans le Nord, libéral dans le Sud. Porte-voix revendiquée des classes populaires dans les campagnes, les gourmands de petits fours à Monte-Carlo.
Les faiblesses des deux sont pointées. L'argumentaire s'adaptera au choix des juges.
Pour l'euro et contre l'Europe.
Valérie Gasse, la France frappée par une nouvelle vague de chaleur. Une semaine après la fin de la canicule record du mois de juin, 16 départements en vigilance orange aujourd'hui dans le sud et l'ouest du pays, avec des températures de 40 degrés attendues par endroit. La chaleur extrême qui fait aussi revenir en avance la saison des incendies en Europe. En France, l'incendie dans les Pyrénées-Orientales a déjà parcouru quelques 4500 hectares. La troisième étape du Tour de France se fera sans public aujourd'hui. Et des milliers d'hectares ont aussi brûlé ce week-end en Espagne et au Portugal.
Les événements météorologiques extrêmes rendus plus fréquents, on le sait, par le réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Et la présidente de la Commission européenne épinglée à ce sujet.
10 associations lancent l'alerte. 2 ans après la réélection d'Ursula von der Leyen, elle décompte au moins 20 reculs de l'UE pour l'environnement et la santé et une trentaine d'autres qui pourraient être entérinés ces prochains mois.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte. es lindo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Un ruego en la boca y un ruego en el alma. Un ruego en la boca y un ruego en el alma.
antenne capte une multitude de fréquences. Pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
Pendant le jury, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principatif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principatif, le mix des cultures.
We're
sale, y'a plus d'un tas dès maintenant. Que la rime assassine, faladif, car on est plein dedans. La peur c'est le silence, venger, créer le danger. On aurait les miens, sauf que la France appelle l'étranger.
Alors chez nous, les tirailleurs oubliés sont nos aïeux et nouveaux. Coup de chant dans la bouche, sème le noyau. On passe nos vies à chercher ce qu'on a devant nous. Attiré par les strass, c'est ce à quoi mes frères se bouent.
Oh, nos rues, mon langage cru sont vite scandalise. Meurtri à la plume, chez les consignes, ça balise. Obligé de niquer trop de bidons en réinsertion. Les frais, c'est comme la vérité, chez nous, y'a plusieurs versions.
La chaîne s'y paie plus, et ça se blesse. Tu mon son est sensibilisé avant que le face éblisse. Rime sous tension, intense, les mots en mal. Fruit d'une tête, ce sont les keufs qui éteignent le feu avec de l'essence.
Mon putain de jargon, je balance vat pour les âmes perdues. Autant dans nos rues que de boîtes vides de néo-codion. Lassé, si la vie a un goût, pour moi c'est amer, c'est la merde. Ici c'est chaud comme insulter sa mère.
Pour les meilleurs pleurs et pour les pires rires, pires rires. Ces courses poursuites, sport, à sensation. Toutes ces courses pour Smith, port. Sans concession, les clips, courses, circuit. Comme avant du shit en terre cuite.
Hémorragie interne, nos vies, c'est un crime. Chagrin constant, nos blocs, pullules de corps meurtris.
Si cette connexion se fiche, on est un hit. En ligne de fond, c'est essentiellement pour nécessiter. Nécessité.
Parle de l'amour aux gens et Isma.
Isma,
Isma.
End story.
Dans une saison, nous ça tue plus.
End story.
Au pouvoir, toute histoire.
Sous les conflits, y'a plus un espoir que mes rimes impures.
C'est les armes qui parlent, ça, on s'entend plus.
End story.
Dans une saison, nous ça tue plus.
End story.
Au pouvoir, toute histoire.
End story.
End story.
End story.
End story. End story.